Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge même pendant l'été et chaque jour entre 13h et 14h, nous mettons en avant des talents, des entrepreneurs qui osent, qui se lancent dans tous les domaines. Ils construisent le monde de demain et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été adoptées. Certaines seront décidées dès la fin juillet, mais la plupart feront l'objet d'un projet de loi spécifique en septembre. Ainsi, se loger, se nourrir, consommer, se déplacer, produire et travailler étaient les thèmes majeurs de cette convention. Nous découvrirons des entreprises qui innovent déjà et qui ont inspiré ces propositions. C'est le dossier du jour. Ce sera après le pitch d'un entrepreneur qui se lance, challengé évidemment par notre coach. Et bien sûr, la solution aujourd'hui, un vernis qui tue les germes et les virus. Très pratique pour les menus chez les restaurateurs. Fanny Rascle nous dira tout. C'est ça, la France qui bouge même pendant l'été.
Europe 1.
La France bouge à mes côtés pendant toute l'émission. Fanny Rascle de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Fanny.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et Sylvain Lambert, associé chez PwC. Bonjour Sylvain.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Vous n'avez pas pu venir aujourd'hui en studio, c'est pour ça qu'on vous entend par téléphone. Vous êtes notre coach de la semaine, vous challengez, vous bousculez les entrepreneurs, toutes les initiatives que l'on découvre chaque jour. Alors on va commencer par une start-up. Son cofondateur va faire le pitch de son projet, comme on dit. Il va nous donner envie, peut-être va-t-il nous convaincre et on va enfin se dire son idée, c'est la bonne. Bonjour Christophe Pasquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Shopping Care. Shopping Care, c'est une appli qui permet aux commerçants d'être en contact direct avec leurs clients. L'application est toute récente puisqu'elle a été lancée au mois de juin. Oui. Alors vous allez nous dire comment ça marche?
Avec plaisir.
C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Shopping Care est né d'un constat simple. Il n'y a aucun réseau social dédié à la mode et il n'y a aucun moyen actuellement de partager son expérience client auprès des boutiques mode. Partant de là, on a imaginé et construit notre TripAdvisor de la mode. On a créé une application qui est complètement gratuite pour les utilisateurs, au sein de laquelle ils peuvent poster leur avis, noter les boutiques, poster leur look, suivre les boutiques qu'ils aiment, mais aussi découvrir avec la géolocalisation l'ensemble des boutiques autour d'eux. Pour les boutiques, on propose une plateforme web au sein de laquelle elles peuvent mettre en avant leur collection, répondre aux avis clients, poster leur look aussi. C'est la première fois, donc je vais enchaîner.
Non, mais c'est très bien. Excusez-moi. Donc, poster les looks, les avis clients, donc une sorte de grande plateforme collaborative autour de la mode.
Tout à fait. Elles peuvent aussi interagir avec la communauté. Le business plan de Shopping Care, il est très simple. C'est une application complètement gratuite pour les utilisateurs et un abonnement mensuel pour les boutiques. Mmh. Avec le Covid, notre application, c'est aussi un moyen pour les utilisateurs de soutenir les commerçants de mode de proximité.
On vous écoute. Allez-y.
Donc je disais, c'est un moyen pour les utilisateurs de.
Bon, en tout cas, non. Mais...
Je vais recommencer.
Christophe Pasquet, déjà, on a bien compris. Shopping Care, c'est donc une appli toute nouvelle, toute récente. C'est aussi pour ça que vous êtes ému, on le voit. C'est tout à fait normal. Elle permet donc aux commerçants de la mode d'interagir avec leurson clients. C'est un peu ça, Fanny. Vous l'avez aussi saisi.
Oui, et il y a cet aspect communautaire qui est vraiment intéressant. On est là pour partager une expérience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette volonté de créer une plateforme où on discute les uns avec les autres?
L'idée, c'est pas de discuter les uns avec les autres. C'est vraiment pour les utilisateurs de mettre en avant les boutiques qu'ils aiment, les boutiques de mode de proximité, et justement de permettre à d'autres personnes d'aller les découvrir et avec cette interaction et cette communauté de soutenir les commerçants qui sont proches et qui ont des boutiques, les indépendants.
Donc c'est géolocalisé.
C'est géolocalisé autour de soi.
Mais alors, est-ce que ça part du produit? Je cherche un produit et je vais avoir la boutique ou...
Si vous pouvez filtrer par produit, vous cherchez des vêtements de femme ou des accessoires ou des robes de mariée, tout de suite sur l'application autour de vous, vous allez voir les boutiques qui sont là. Mm-hmm. En parallèle, si vous êtes juste curieuse et que vous voulez aller voir, c'est trié par les notes aussi.
Mmh. Et la note, quel est le critère de la note? C'est l'accueil, c'est la qualité du produit, c'est
exactement.
Le prix,
Il y en a 5, il y a le prix, l'accueil, la qualité du produit, votre ressenti, comment sont disposés les vêtements, la propreté, etc.
Vous avez pris en compte les gestes barrières?
Oui, alors sur Instagram, justement, on fait des vidéos où on met en avant les boutiques, les gestes barrières, les masques, etc.
Les boutiques plus respectueuses et les boutiques où on est 20
alors
dans la
après,
cabine.
C'est les utilisateurs qui notent. Nous on a créé l'application, mais c'est le libre choix de... et les libres arbitres de chacun.
Que dit notre coach Sylvain Lambert?
Ben voilà, ben écoute, on est vraiment, lisez dans ma pensée, puisque j'allais poser une question. Quel est votre modèle économique?
Alors, le business plan, il est très simple. C'est une application complètement gratuite pour les utilisateurs. Et pour les boutiques qui souhaitent bénéficier de nos services, on propose des abonnements mensuels.
Ok, donc abonnement mensuel.
De quel ordre à peu près?
Pardon? Le prix? Le prix, il est de...
Absolument.
L'abonnement mensuel, le prix de base, il est de 50 euros. Ce qu'il faut savoir sur cet abonnement mensuel, il y a 50% qui est pris en charge par la région avec les chèques numériques. Ce qui est important à dire, c'est que cette application, c'est un outil de développement numérique pour les boutiques, grâce à laquelle elles peuvent augmenter leur attractivité, se mettre en avant et trouver un nouveau public. Et ce que je disais aussi, c'est que pour les utilisateurs, c'est un outil pour soutenir les commerces mode de proximité en consommant la mode différemment.
Ouais, donc on n'est pas sur du H&M et du Zara, là. On est sur des petites boutiques de proximité, des multimarques, des choses comme ça.
On référence tout le monde, mais on ne parle pas de marque, on parle de boutique. Vous voyez, Zara, ils sont en train de fermer plus de 1000 boutiques. Mmh. L'idée, c'est vraiment de soutenir les boutiques mode. La France, c'est le pays de la mode. Et notre appli, on espère que ce sera l'outil pour soutenir les boutiques mode de proximité.
Anissa, une question pour vous.
Alors, on voit que votre modèle, c'est TripAdvisor, vous l'avez cité. On sait que sur ce genre d'appli, il y a parfois des commentaires qui sont soit faits par les restaurateurs,
par les
hôteliers, par votre cousine, par la famille. Oui. Est-ce que vous avez un moyen de modérer ces commentaires, de les vérifier?
On a forcément l'avis est forcément validé en amont avant d'être diffusé. Donc, à un moment donné, c'est des choses qui se verront. Après, si un restaurateur fait un mauvais commentaire ou un commentaire insultant, on a le moyen de le supprimer. Les gens ont aussi le moyen de nous avertir sur les commentaires qui nuiraient à leur commerce.
Parce qu'il peut y avoir une petite guerre de concurrence aussi entre deux commerces l'un à côté de l'autre.
Tout à fait. On est dans un esprit bienveillant. Après, bien sûr, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on a les moyens, avec les adresses mail ou les signalements, de nous avertir pour qu'on puisse les retirer.
Christophe, ce n'est pas votre première entreprise?
Bah, c'est la première concrète.
C'est la première concrète. Oui. Pourquoi vous avez eu cette idée? Comment ça vous est venu? Parce que j'ai l'impression que les plateformes autour de la mode, il y en a énormément. Comment vous avez eu l'idée? Comment vous allez vous différencier?
C'est là où je vais être un peu en contradiction avec vous. C'est que des plateformes autour de la mode, il y en a, mais des plateformes dédiées à la mode, il n'y en a aucune. Des plateformes sur lesquelles on peut partager notre expérience client sur une boutique mode, il n'y en a aucune. Il y en a sur les restaurateurs, il y en a même avec Doctolib sur les médecins, il y en a surtout sur les barbiers, il y en a surtout. La communauté mode, elle n'a aucun moyen d'expression.
Elle est très présente sur Instagram.
Oui, mais Instagram, on va trouver une personne qui met ses looks, on va trouver une personne qui publie des vélos, qui publie de la... Enfin, il y a de tout. Instagram, les boutiques, sur Facebook, sur Instagram, elles sont noyées dans la masse de tout ce qu'il y a.
Donc vous allez les centraliser par région?
Alors, elles sont géolocalisées. Actuellement, on a 35 000 boutiques sur l'application qui sont référencées.
Elles sont toute la France.
Donc, que vous soyez à Lille, Paris, Marseille, même dans les dom-toms, vous trouverez les boutiques autour de vous. Donc, c'est vraiment dédié à la communauté mode et pour les boutiques de mode. Juste une chose aussi importante, c'est qu'on parlait de s'engager pour soutenir les commerçants en mode de proximité. Nous aussi, on s'engage. Nos services, on a décidé de les faire gratuits jusqu'à la fin de l'année pour l'ensemble des boutiques qui souhaitent bénéficier de nos services.
Eh bien, j'espère qu'elles vous ont entendu. En tout cas, nous, on a bien compris. Ça s'appelle Shopping Care. Merci à vous, Christophe Pasquet.
Merci à vous.
Il est 13h20. Europe 1. Un problème, une solution. Aujourd'hui, une entreprise qui s'adapte à la crise, la manufacture d'Histoire des Deux Ponts, propose un vernis antibactérien spécial pour protéger, entre autres, les menus des restaurants. Fanny Rascle nous dira tout. À tout de suite. Europe 1. La France bouge sur Europe jusqu'à 14h avec vous, Elisabeth Assayag, et la solution du jour.
Et oui, la solution d'aujourd'hui, c'est une idée qui va intéresser tous les restaurateurs qui nous écoutent. Anissa, vous, ça va vous plaire aussi.
Je vais penser à mon papa.
À votre papa,
ouais.
Évidemment. Mais pas seulement, parce que vous allez vite comprendre. Imaginez une technique d'impression qui permet d'appliquer sur votre menu un vernis spécial, un vernis qui tue les germes et les virus. C'est très sérieux. L'innovation est proposée, Fanny Rascle, par la manufacture d'Histoire des Deux Ponts.
Oui, cette impression d'un vernis antibactérien est une solution supplémentaire. On vous en parle tous les jours ici dans La France Bouge pour limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus et pour rassurer les consommateurs que nous sommes. La manufacture d'Histoire des Ponts est la première en France à l'utiliser. Bonjour Laurent Cayatte.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous depuis vos locaux à Bresson en Isère, c'est près de Grenoble. Concrètement, comment ça fonctionne? Comment ce virus tue-t-il les virus?
Ce vernis tue-t-il les virus?
C'est un vernis antibactérien, c'est-à-dire que c'est un vernis classique comme on en applique beaucoup sur différents documents. Mais là, en plus, il a une propriété, il a des agents qui sont photocatalyseurs. c'est-à-dire qui s'active par une exposition simultanée à l'air et à la lumière, et ça vient tuer les germes, donc que ça soit des bactéries ou le coronavirus. Et ça a été testé par des laboratoires en Allemagne, puisque c'est nos confrères allemands qui ont développé ce vernis antibactérien.
Et vous avez ramené cette technologie en France et vous êtes les premiers en France à l'utiliser concrètement dans une méthode d'impression. Vous promettez à vos clients quelle durée d'efficacité quand vous imprimez un menu, par exemple ?
Bon, ça a une durée d'efficacité de 1 an, voilà. Et ça permet, si vous voulez, en fait, ce qu'il faut quand même bien préciser, c'est que même s'il y a très peu de probabilité que le papier soit un véhicule de transmission du virus, c'est plutôt un principe de précaution. Mais on garantit à peu près 1 an.
En termes d'impression, est-ce que c'est un défi technique par rapport aux autres vernis mat ou brillant quand vous avez à l'utiliser pour une impression ?
Non, pas trop. En fait, au départ, c'était un petit peu complexe de trouver l'adaptation, mais on a trouvé le bon compromis. En fait, ce n'est pas un procédé offset qui est utilisé, c'est un procédé de flexographie, voilà, qui permet de déposer des vernis à l'eau. Et le vernis n'a aucune nocivité pour les consommateurs. Voilà, ça c'est des vernis à l'eau tout à fait classiques.
Oui, justement, quand on dit vernis, on a toujours un peu peur qu'il y ait des produits chimiques à l'intérieur. Là, vous nous dites que c'est sans risque. Hein.
Non, il n'y a aucun solvant. Voilà, ce sont des vernis en fait, qui ont été trouvés. Nous, on a un service de recherche et développement. Et on a trouvé ça en Allemagne, comme je vous le disais. Et vraiment, c'est tout à fait aucune incidence sur la santé, bien sûr.
Alors, Elisabeth le disait dans la présentation, les premiers clients que vous visez, ce sont les restaurateurs pour leur menu. Comment réagissent-ils quand vous leur proposez cette solution ?
Alors, c'est les restaurateurs. En fait, la petite histoire, pourquoi j'ai trouvé cette solution, mes collaborateurs ont trouvé cette solution. Enfin, en fait, on a eu une problématique qui nous a été exposée par un de nos clients parisiens, qui est le Ritz, l'hôtel de la Place Vendôme. Mmh. Et la directrice marketing et communication me dit, écoute, mon directeur général me met en garde, parce qu'on fait le magazine, la revue de l'hôtel, et me met en garde contre le fait que les clients se seront un petit peu réticents d'avoir un magazine qui a peut-être été manipulé par le client précédent. Est-ce que tu as une solution ? J'en ai parlé à mon directeur de production, on a réfléchi et on a trouvé avec le service recherche et développement, voilà ce vernis. Donc c'est vraiment une application concrète qui est partie de la demande d'un client.
Qui est d'un besoin.
Voilà. Après, on a d'autres, bien sûr, des restaurateurs. On a la chance d'avoir un étoilé Michelin, 2 étoiles, la maison Haribert, Christophe Haribert.
Faites-nous
et pour
rêver.
Ces menus... Pardon ?
Faites-nous
oui,
rêver.
Avec grand plaisir, voilà. Et c'est donc là-dessus, on a fait des menus qui sont dans la totalité est recouvert du vernis antibactérien. On a aussi fait la même chose pour toute la documentation de communication pour l'OT de Saint-Tropez, l'Office de tourisme de Saint-Tropez, où là, carrément, eux, ils voulaient la couverture et toutes les pages intérieures. Donc, tous les documents qui sont édités pour le Saint-Tropez sont tous avec un vernis antibactérien.
Mais comment le client va-t-il le savoir ? Parce que vos clients directs, c'est-à-dire les hôteliers ou là, à Saint-Tropez, eux, ils font appel à vous spécialement pour protéger sa population, pour la rassurer. Mais nous, en tant que clients, comment on le sait ? Il y a un petit logo, il y a quelque chose qui nous permet de savoir que si on touche ce menu, c'est sans crainte ?
L'être humain prend toute sa valeur, c'est-à-dire que c'est au serveur, c'est aux gens qui distribuent les documents de porter la bonne parole. C'est vrai qu'on s'est posé la question d'avoir une petite vignette ou un petit fanion estampillé protection anti-coronavirus. Bon, après ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. On était plutôt dans l'esprit d'apaiser un petit peu le climat. Et c'est surtout un principe de précaution. Hein. Mmh. Je le répète, le papier n'est pas un véhicule de transmission du virus. Il l'est beaucoup moins que du plastique ou du métal. Hein.
Donc on est vraiment plus, pas sur un geste barrière, mais vraiment sur une façon de rassurer les clients. Quel est le surcoût justement pour les rassurer et on sait que c'est important, mais quel est le prix ?
Non, il est infime. En fait, on est en train de se poser même la question si on ne va pas le généraliser. C'est-à-dire que systématiquement, quand les gens nous demanderont un vernis, bon, on mettra systématiquement ce vernis antibactérien.
Et ce sera inclus. Et j'ai l'impression que vous adressez beaucoup aux hôtels un peu premium, un peu de luxe, enfin, aux restaurants. Est-ce que vous pensez le généraliser aux restaurants plus traditionnels, plus classiques ?
Voilà, alors souvent on a eu des demandes de clients plus classiques, alors je réponds tout de suite, on ne peut pas appliquer du vernis sur des menus qui sont déjà imprimés, hein, ça c'est pas possible, il faut l'imprimer
donc
sur des grandes planches.
Donc surtout, voilà. C'est un budget supplémentaire pour le restaurateur qui a déjà ses menus.
Oui, c'est un budget supplémentaire, comme vous le disiez, nous on travaille beaucoup avec les étoiles Michelin, les grands hôtels, que ce soit Paris, la Côte d'Azur, voilà. Nous on est labellisé EPV, entreprise du patrimoine vivant, et de ce fait, voilà, on essaye de mettre en avant l'excellence du savoir-faire français, et l'excellence passe aussi par du sourcing, par de la recherche. On a un métier traditionnel qu'on compare souvent au digital, mais un peu comme vous, la radio, La télévision avait dit on va tuer la radio, vous êtes toujours là. Le digital a dit on va tuer le papier, on est toujours là. Donc on est des frères d'armes, je pense. Et nous, on propose systématiquement, voilà, on propose à nos clients un service innovation, un service recherche et développement pour qu'ils aient envie d'utiliser le papier pendant longtemps.
Bon, en tout cas, ça nous a donné envie de les découvrir. Merci à vous, Laurent Caillat, d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes le PDG de la manufacture d'Histoire de Pont. Vous nous avez présenté cette technique d'impression avec un vernis antibactérien qui marche. Il faut aussi le préciser, hein, c'est sur tout type de papier. Merci à vous.
Il est 13h29. Europe 1.
Vous avez jusqu'au 13 juillet pour donner votre avis sur les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Hein, objectif, réduire les émissions françaises de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030. Des initiatives ont inspiré ces propositions. On va les découvrir. À tout de suite. Il est 13h30 sur Europe 1, vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag. Gros plan aujourd'hui jusqu'à 14h à la Convention citoyenne, Elisabeth.
Et oui, hein, une convention citoyenne qui a été inspirée par beaucoup d'initiatives. Mais tout d'abord, on va parler de cette convention climat avec vous. Bonjour Lambert Allard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez 29 ans et vous êtes le porte-parole, membre de la Convention citoyenne pour le climat, ce qui signifie, pour qu'on comprenne tous, que vous avez donc fait 7 week-ends de travail sur plusieurs mois, vous avez été tiré au sort, pour travailler sur ces fameuses mesures qui réduisent les effets de gaz à effet de serre.
Oui, c'est ça. En fait,
comment ça s'est passé?
J'ai été tiré au sort sur la liste téléphonique, donc comme 150 personnes, et on a travaillé... Donc,
vous avez reçu un petit SMS alors?
J'ai reçu un SMS l'été dernier, vous avez été tiré au sort, donc j'étais un peu surpris, hein, comme quand on reçoit un texto pour nous dire qu'on a été tiré au sort, mais c'était bien le cas, et en fait, on a commencé dès le mois de septembre, jusque-là, à la fin de nos travaux, on a remis 146 mesures au président lundi dernier. Donc on a d'abord eu des formations sur le sujet climatique.
Vous avez fait 149 propositions et 146 ont été retenues,
ouais, c'est plutôt ça. Oui, ont été retenues, hein. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et on a été formés par des experts privés, publics, des ONG qui nous ont aidés en fait à co-construire ces mesures qui se devaient être justes socialement. Et c'était l'intérêt en fait du tirage au sort et des riches débats qu'on a eus ensemble pour produire ce travail.
Oui, parce que je me tourne vers Fanny, hein, cette Convention citoyenne pour le climat. Concrètement, qui y a participé? Donc on a Lambert qui est parmi nous, mais c'était très très varié.
Oui, exactement. Parmi les participants, on trouve un architecte de Nantes de 33 ans, une ancienne auxiliaire de vie qui est devenue maire de sa commune de la Sarthe entre-temps, et puis vous l'avez dit. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est ce travail à la fois vous en première ligne et les experts. Les participants en première ligne et les experts qui sont venus à vos côtés, qui vous ont aidé à réfléchir, à débattre. Vous avez eu des auditions, mais ce sont bien ces citoyens qui ont remis les propositions au gouvernement et à Emmanuel Macron. L'objectif de ces mesures, on le rappelle, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. Et d'ici 10 ans, c'est demain.
Hein. C'est demain. Lambert, qu'avez-vous retenu de cet exercice?
C'est une
anecdote en particulier.
C'est la richesse des débats, en fait. On pense tous être sensibles un peu à l'écologie, faire des petits gestes, tous ou pas, mais c'est...
Ça a changé quelque chose dans votre vie, ouais, dans le quotidien?
Dès le premier week-end, on a tous été très marqués, et on a tous eu envie d'avancer en même temps, et c'était ça qui était génial. C'est un chef d'entreprise de 50 personnes en région parisienne, discute avec un ouvrier dans le Tarn, et puis parle de l'avenir, de comment on peut faire passer les choses, comment on peut trouver des mesures qui peuvent faire consensus. Et c'est une expérience unique de pouvoir vivre ça. C'est des gens qu'on ne croise pas dans notre quotidien, donc c'est passionnant.
Alors là, vous nous parlez de la rencontre entre les uns et les autres, de ce lien social que vous avez tissé les uns avec les autres. Concrètement, par rapport à la Convention citoyenne, qu'est-ce qui est pour vous le plus important dans les propositions, quelle est l'initiative la plus importante? Parce qu'on le rappelle, hein, il y a six volets. Il y a se loger, se nourrir, consommer, se déplacer, produire, travailler. Vous, quel est pour vous le volet le plus important en tant que porte-parole?
Alors, je suis pas spécialement le porte-parole, je suis un des porte-paroles. Moi, je pense que les mesures sur la rénovation des bâtiments d'ici 2030, c'est une mesure très importante parce que elle va créer beaucoup d'emplois, elle va relancer l'économie et elle peut s'inclure dans un plan de relance suite à la crise qu'on a subie. Il y a beaucoup de, énormément de mesures autour de justement de cette justice de qui va créer des emplois, etc.
Sur la rénovation des bâtiments énergétiques.
Ouais, et puis le renouvellement du parc de voitures. Et puis plus personnellement, moi je suis assez attaché à une mesure en particulier sur laquelle on a travaillé dans le groupe Consommer.
Donc autour de la nourriture.
Ouais, on a eu beaucoup de débats en fait autour de l'impact des produits qu'on consomme et qu'on achète. Donc on voudrait en fait connaître à chaque fois qu'on achète quelque chose son impact environnemental. Il y a des sujets où c'est déjà très bien normé. Hein. Quand on prend un train, on sait le CO2 émis. Quand on achète un logement, on a des scores.
Mais concernant l'alimentation, c'est encore un peu flou pour vous.
L'alimentation, l'habillement, les services, c'est encore obscur.
Et donc, ça vous a donné l'idée de continuer dans cette démarche-là,
exactement.
Parce que vous, à la base, vous êtes développeur informatique.
C'est ça.
Et vous allez monter quelque chose autour de cela.
En fait, pour l'alimentation, c'est urgent parce que ça représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est l'éco-geste numéro un si on veut réduire son impact personnel.
Donc
il fallait assez rapidement créer une application qui permettent de mesurer l'impact environnemental des produits alimentaires. Donc, il suffit de scanner un produit, un code-barre, et on vous donne un score qui va de 0 à 100 en se basant sur l'empreinte carbone et d'autres facteurs environnementaux comme les écolabels ou l'impact sur la déforestation. Et ce score vous donne un indicateur qui vous permet de comparer deux produits entre eux et de privilégier des alternatives plus écologiques.
Et c'est vous qui l'avez mis en place, cette structure. Ça s'appelle comment, cette appli ?
Ça s'appelle Carbone avec un K. Vous pouvez déjà la télécharger sur les stores. Mmh. Et en fait, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon associé, Baptiste, que je salue.
Pendant la convention,
parce qu'il est venu justement.
Ça a même créé des emplois, des entreprises.
Exactement.
Une très jolie histoire. Mmh. C'est une très, très belle histoire, hein, tout ça. Sylvain, qu'est-ce que vous en dites de ça, notre coach ?
Moi, j'ai une question pour Lambert. Les résultats sont intéressants, mais on sait que l'échelle de la France pèse assez peu, je parle techniquement en termes d'impact climatique. Donc, est-ce que vous avez eu des contacts ou est-ce que vous avez suscité de l'intérêt à l'international ? Est-ce que vous pensez que ça va générer d'autres types d'actions ? Parce que s'il n'y a que nous à faire ça, alors qu'on voit l'impact de pays comme les États-Unis et la Chine, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, comment vous regardez ça ? Comme un signe encourageant ou comme quelque chose qui va falloir encore pousser ?
Alors sur la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu beaucoup de, elle a inspiré beaucoup de pays. On a déjà l'Espagne, l'Angleterre qui se sont dit intéressés pour lancer ça. On a de plus en plus
cette
de retours comme ça.
Cette grande concertation citoyenne, hein.
Et je pense que c'est la force de notre pays, c'est qu'OK, on est un petit pays, on n'a pas forcément un énorme impact, mais on a des grandes idées, on est regardé et je suis sûr que ça va avoir un impact très bénéfique pour le climat international.
Fanny, il y a des entreprises qui proposent déjà des étiquetages équivalents dont nous parlait Lambert.
Oui, parce que ce débat, il n'est pas tout à fait nouveau. En fait, la loi sur l'économie circulaire qui a été votée avant la crise du Covid proposait déjà de réfléchir au CO2 score, mais pas de le rendre obligatoire. Donc, on était sur le chemin, mais pas totalement arrivé à terme. Alors, du côté des solutions qui existent déjà, avec l'équipe de la France Bouge, on a repéré Ethicable, qui propose un outil, un éco-calculateur à destination des professionnels pour leur permettre d'évaluer l'impact carbone de leurs produits. Alors, il prend en compte notamment l'empreinte carbone, la saisonnalité aussi des fruits et des légumes. C'est important, le fait que ce soit des produits locaux ou non. Et si vous allez sur le site de l'épicerie La Fourche, lafourche.fr, eh bien vous allez voir apparaître ce score carbone sur tout son catalogue alimentaire. La note va de A+ à E, en prenant en compte la production, le transport, le stockage et l'emballage, évidemment.
Des tas d'idées comme ça. Merci à vous, Lambert, Allard. Hein, vraiment, c'est un plaisir de vous écouter. On reste ensemble, on continue à parler Convention citoyenne pour le climat aujourd'hui.
Il est 13h38.
Europe 1.
Six thématiques donc ont encadré la réflexion de cette convention citoyenne. Se loger, consommer, se déplacer, produire, travailler, se nourrir. Et on va le voir, la place de la consigne est de plus en plus grande. Et on en parle avec Green Big et son fondateur est avec nous. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag. Elisabeth, il y a de nombreux entrepreneurs qui ont profité de la convention citoyenne pour innover et vous les recevez aujourd'hui.
On les reçoit et certains sont déjà précurseurs. Hein. Ils ont inspiré beaucoup, beaucoup de propositions, notamment dans la consigne. Vous le savez peut-être, la France est le 5e pays le plus consommateur de bouteilles en plastique au monde, avec plus de 60 millions d'unités jetées chaque jour. Alors c'est peut-être le moment de se poser la question maison de la consigne. Bonjour Benoît Pagé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Green Big. Green Big, ça existe depuis 3 ans, donc avant la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez développé le Bibot. Le Bibot, c'est une machine. Donc la Bibot, enfin, vous allez tout nous expliquer. Ouais. Elle révolutionne, on peut le dire, hein, le recyclage de la bouteille plastique.
Oui, c'est l'ambition qu'on a. Vous l'avez dit, hein, c'est 16 milliards de bouteilles en France consommées tous les ans. Et avec un énorme paradoxe, c'est que tous ces embouteilleurs qui fabriquent ces bouteilles cherchent à incorporer, pour limiter leur impact carbone, le plus de matière possible en recyclée. Donc issue de nos poubelles, entre guillemets. Et le paradoxe, c'est qu'ils ne la trouvent pas, cette matière, alors que nos poubelles débordent. Et donc, en fait, la réponse, souvent dans l'écologie, elle est économique. Et on s'est aperçu qu'effectivement, les filières existantes étaient... pas suffisamment efficiente, trop chère, on n'arrivait pas à avoir le produit de suffisamment bonne qualité. Et donc, on s'est attaché au problème en disant, mais comment faire ? Puisque, en fait, le vrai sujet du plastique, c'est qu'il est polluant quand il finit dans l'océan, dans la nature. Mais s'il était 100% récupéré, recyclé, le plastique ne serait pas un si mauvais matériau. Le recyclage permet aussi d'économiser du pétrole pour le produire.
Avec votre système, le plastique, ça devient une ressource.
Ah,
c'est plus un déchet.
Ouais. Le plastique, nous, on lutte contre le déchet plastique et on fait du plastique une ressource. Et en fait, 100% des bouteilles qu'on récupère grâce à nos machines, la Bibot ou le Bibot, redeviennent des bouteilles. Donc, on est dans une économie 100% circulaire. Et de fait, effectivement, on apporte plus de matière à recycler aux industriels qu'on cherche avec une logique économique vertueuse. Et ça, on y est hyper attaché parce que la règle dans le déchet, c'est quand même que c'est souvent financé par... des subventions, des impôts et en tout cas de l'argent du consommateur ou du citoyen. Là, l'idée, c'est de dire que la revente de la matière doit pouvoir financer l'intégralité de la collecte et du recyclage des bouteilles parce que cette matière a une valeur qui est de plus en plus importante puisque comme tout le monde en cherche et qu'il n'y en a pas assez, bah, c'est la loi du marché, les cours montent. Et donc l'idée, c'était effectivement de résoudre cette équation avec une machine qui réduit à la source la taille des bouteilles. En fait, on les transforme en paillettes. Ce qui nous permet de mettre dans une petite machine qui fait moins d'un mètre carré 3000 bouteilles. Et en fait, quand on a fait ça, ça veut dire que c'est beaucoup moins de vidage de machine, donc beaucoup moins de manutention, c'est beaucoup moins de stockage, c'est beaucoup moins de transport. Tout ça, c'est plein d'économies. Et en fait, on raccourcit le cycle parce que la bouteille transformée en paillettes, elle va directement de notre machine au recycleur qui va la réutiliser pour refabriquer une bouteille en circuit très court et dans une boucle complètement circulaire.
On la trouve où, cette machine ?
Alors pour l'instant, il y en a peu au moment où on se parle, parce qu'il y en a, une douzaine d'installées. Elles sont pour l'instant en Paris, un peu en région parisienne pardon, et en Normandie. C'est pour nous des protos qui nous ont permis de finaliser la partie R&D endurance. Et là, on est en train de les produire en France. Et ça, on est très attaché à ça aussi. À Dieppe, avec un partenaire, même plusieurs partenaires, mais la machine est assemblée par Toshiba à Dieppe. Et on va en installer une centaine là, d'ici la fin de l'année. Et on prévoit d'en installer entre 500 et 700 en 2021, avec en perspective effectivement cette logique de retour de la consigne, avec en fait un double concept sur la consigne. Il y a la consigne pour réutilisation, sur le verre. Et il faut
mais là, sur le plastique, proprement dit.
Et là, l'idée, c'est de la consigne pour recyclage sur le plastique, pour effectivement, le plus vite possible, récupérer la plus grande partie de ces 16 milliards de bouteilles.
Quand on dit bouteille plastique, on dit bouteille plastique d'eau, ou on peut imaginer d'autres bouteilles plastiques avec, qui ont peut-être eu à l'intérieur un contenu qui soit collant, sucré, et qui compliquerait un peu la tâche.
Toutes les bouteilles plastiques de boissons. Donc l'eau représente la moitié à peu près. Et après, si je simplifie un peu, le un quart, c'est les softs. Et le dernier quart, c'est les jus. Mais effectivement, l'eau est la grosse partie.
Donc les lessives, on oublie ? Et les lessives liquides,
ouais, c'est pas
tout
le même plastique, en fait.
D'accord.
Alors tout le sujet du plastique, en fait, la bouteille plastique, sans rentrer dans trop de techniques, elle est en PET. Et toutes les bouteilles de boissons sont en PET. Et en fait, c'est ce PET qui se recycle très bien.
Avec la machine que vous avez inventée. Que dit notre coach Sylvain Lambert ?
Oui, quel est le modèle économique de Green Big ? En fait, qui vous achète les machines ? Comment vous vous rémunérez ?
Alors, on vend les machines soit à des collectivités, soit à des supermarchés qui, en fait, eux-mêmes investissent dans cette machine et revendent. Enfin, on les aide à revendre la matière. Donc, à partir du moment où la machine collecte à peu près 1000 bouteilles par jour, eh ben, ça permet effectivement à celui qui l'a acheté de se rembourser sur l'achat de la machine. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Anissa ?
Elles seront où ces machines? Comment on peut faire si, par exemple, on habite dans une petite ville qui a quelques commerçants et qu'on a envie d'avoir une machine? Est-ce qu'on peut s'adresser à notre mairie?
Qu'est-ce qu'on peut faire dans un grand supermarché?
Voilà,
quoi,
qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que consommateurs pour avoir une bibotte? Est-ce que c'est possible?
Alors, c'est notre travail d'essayer de faire que les bibottes soient, il y en ait de plus en plus et surtout partout et pas que dans les supermarchés et notamment dans les grands supermarchés. Et c'est un enjeu énorme dans les villes parce que c'est dans les villes où le taux de recyclage des bouteilles est le plus mauvais. À Paris, c'est une bouteille sur 10 qui est recyclée. À Marseille, c'est une sur 12. Donc, c'est là
encore du travail,
le sujet. Donc, en fait, c'est de mettre ces machines partout où on peut. L'intérêt de la machine, tant qu'elle rentre à peu près n'importe où parce qu'elle est toute petite. Donc, ça peut être dans des commerces de proximité. Ouais.
Est-ce qu'on peut l'imaginer en extérieur, à côté des poubelles de verre? Donc, on emmène nos bouteilles en verre dans cette poubelle-là et à côté, il y aurait une bibotte. Est-ce que c'est possible en extérieur?
Ce serait l'idéal.
Oui, ça serait tout à fait possible.
Mais là, vous ferez un contrat avec la collectivité.
Ouais.
Donc, ce serait autre chose.
Oui, notre sujet, c'est de mettre le plus de machines possible pour récupérer le plus de plastique
possible.
Mais
ce serait simple, parce que là, j'imagine que vous faites des contrats avec les responsables de la grande distribution.
Oui,
aujourd'hui.
Mais on pourrait faire demain des contrats avec des mairies.
Vous êtes en
de
contact
la même
déjà
façon, ils acheter
ça avance
machines.
Dans ce sens.
Alors, ça avance, pour être très honnête, un peu moins vite avec les mairies. Et puis là, la période préélectorale n'avait pas été propice à ces discussions-là pour eux. Maintenant que les équipes sont en place, les choses vont sûrement s'accélérer un peu. Oui, on a des discussions. La mairie de Marseille, d'ailleurs, j'étais au téléphone avec eux ce matin. Donc, c'est des sujets qui les intéressent. Parce qu'à la fin, c'est quand même un gain de performance pour eux. C'est une solution qui est plus économique que celle qui existe, qui leur permet d'améliorer leur taux de recyclage. Donc, la collectivité...
Tout le monde est gagnant avec votre solution.
Pardon ?
Tout le monde est gagnant avec votre solution.
Ouais, réellement, tout le monde est gagnant.
Elle coûte cher ?
Bah non, parce qu'elle est rentable. Donc à la fin, et d'ailleurs c'est l'enjeu pour nous, c'est pour la déployer à grande échelle, il faut qu'effectivement elle puisse être financée par la vente matière. Donc ça ne coûte rien, entre guillemets.
Ça coûte zéro. Fanny, la Convention citoyenne pour le climat, les prochaines étapes?
Alors, le président de la République a fait une promesse il y a 10 jours dans les jardins de l'Élysée, que toutes les propositions faites par les participants soient mises en œuvre au plus vite. Alors, au plus vite, ce n'est pas une date très précise, on est d'accord. Mais on sait déjà que certaines mesures pourraient être discutées d'ici fin juillet. D'autres sont déjà programmées dans le plan de relance qui sera soumis au Parlement à la fin de l'été. Une nuance malgré tout, on le disait tout à l'heure, 149 mesures validées, sauf 3. Emmanuel Macron a d'ores et déjà retoqué la taxe de 4% sur les dividendes. On le voit, la question du financement, elle est centrale. La limitation de la vitesse à 110 km/h et une modification de la Constitution qui aurait permis d'inscrire la préservation de l'environnement au-dessus de toute autre considération.
On reste ensemble, on parle Convention citoyenne pour le climat sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Autre thème majeur, le logement, avec comme enjeu la rénovation énergétique globale de l'ensemble des bâtiments. Et c'est ça, la France qui bouge, on a des solutions, écoutez-nous.
La France bouge sur Europe avec Elisabeth Assayag. Gros plan sur la convention citoyenne aujourd'hui avec de nombreuses innovations.
Oui, réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre, tel est l'enjeu de cette convention. Alors à quoi ressemblera l'habitat de demain? Bonjour William Ocamp.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes architecte urbaniste, vous êtes situé à Nantes. Et d'ailleurs, vous avez choisi, vous, de vivre à Nantes pour pouvoir appliquer au quotidien votre engagement lié à l'environnement.
Oui, exactement. Enfin, j'ai besoin de cette double casquette à la fois acteur et puis spectateur des changements. Et Nantes est une ville assez réputée pour se développer dans la bonne direction, notamment d'un point de vue du climat.
Alors vous aussi, comme notre invité, comme Lambert Allard, vous avez été tiré au sort. Vous êtes membre de l'association des 150 pour parler climat. Les climats, donc comment ça s'est passé, vous aussi? Quel est le retour de votre expérience?
Ben écoutez, en fait, donc par exemple, moi j'ai été tiré au sort à la fois pendant la convention dans le groupe Se Loger, sachant que c'était l'idée d'avoir le point de vue de monsieur et de madame tout le monde. Donc il y avait un architecte urbaniste qui a pu donner son avis sur les thématiques liées au logement. Oui.
Voilà, alors vous avez donné votre avis, qu'est-ce qu'il en ressort? Quelle est pour vous la chose la plus importante liée au logement après cette consultation citoyenne?
Eh bien, on a donc identifié, enfin, dans notre groupe Se Loger, que la rénovation, la consommation raisonnée d'énergie et puis la réduction de surface urbanisée, c'était 3 leviers de lutte contre les GES. Et pour nous, on semble que c'est un très gros chantier à venir.
C'est un gros chantier, mais ça va passer par quoi? Quelles sont les urgences, j'ai envie de dire, à traiter là-dessus?
À la rénovation globale, bien sûr. Alors là, on parle comme on a 31 millions de logements en France, par exemple, et dont 7,5 qui sont des passoires thermiques, donc étiquetés F ou G. Il faut donc si on veut atteindre la neutralité carbone dans 30 ans, en 2050, il faut commencer dès maintenant.
Donc quand vous dites commencer dès maintenant, c'est quoi ? Des petits exemples ? C'est par exemple faire attention à la façon dont on chauffe les lieux publics, ça peut être ça ?
Là, ce qu'on appelait la consommation d'énergie raisonnée, le fait de faire effectivement attention aux lieux publics, quand vous chauffez les terrasses pour rien, quand vous laissez les portes ouvertes des magasins climatisés, il y a pas mal de choses comme ça qui sont à prévoir. Et donc là-dessus, on a fait des mesures. On a fait aussi cette mesure sur la rénovation globale. Le prochain intervenant va en parler plus en détail.
Oui, il est avec nous, c'est Vincent Legrand. Oui, il va venir, là, il arrive.
Qui était venu nous voir à la Convention citoyenne pour nous expliquer que la rénovation globale, c'était le véritable moyen d'économiser l'énergie. Et donc, il nous a convaincus que la rénovation par petits bouts était inefficace et qu'il fallait se lancer.
Il fallait que ce soit quelque chose de beaucoup plus global.
Alors, c'est-à-dire que quand vous rénovez, c'est le toit, les fenêtres, la façade, tout en même temps. C'est-à-dire pas petit bout.
Pas par petit bout, parce que c'est là où on perd d'abord beaucoup d'argent, parce que c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus long. Autour du logement, justement, Fanny, il y a des solutions qui existent déjà.
Oui, parmi les solutions qu'on a pu lister avec l'équipe de La France Bouge, je pense notamment à Covalba. C'est une résine blanche imaginée du côté d'Orléans qu'on peut appliquer sur le toit des usines, des supermarchés pour réfléchir le soleil et garder la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment. Et puis, on peut citer aussi Imop. C'est une start-up basée à Saint-Étienne qui propose un algorithme qui croise plusieurs types de données, alors 70 au total, pour permettre aux collectivités de mieux cibler les opérations de rénovation et d'isolation sur les bâtiments qui en ont vraiment besoin, mais aussi en aidant les populations qui sont vraiment en difficulté. Parmi les autres mesures qui sont vraiment intéressantes dans la convention, je retiendrai aussi la possibilité de former les professionnels du bâtiment. C'est vraiment une dimension qui est très importante.
Et justement, on va le voir, vous parliez de solutions globales, William Aucan, sur cette question du logement. La convention a auditionné plusieurs porteurs de solutions déjà existantes, et notamment une qui s'appelle Dorémy. Bonjour Vincent Legrand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Dorémy, ça s'adresse aux particuliers, mais vous travaillez aussi avec les collectivités. Et vous la proposez, cette solution globale, dans la rénovation des bâtiments ?
Oui, l'enjeu pour nous, c'est effectivement de ne plus rester sur des petits morceaux de travaux.
C'est ce que disait William.
Mais c'est d'aller, de regarder beaucoup plus globalement la maison. Et donc, d'effondrer les consommations de chauffage. On parle de division par 4, 6, voire 8 des consommations de chauffage. Alors évidemment, l'investissement est plus élevé, mais on se rend compte qu'au lieu de mettre son argent dans le chauffage, il est beaucoup plus intéressant pour avoir une maison confortable, économe et saine de le mettre dans les travaux de rénovation.
Alors vous, notre enjeu. Mais oui, vous avez vous avez eu du flair parce que vous, ça a commencé en 2012. C'est là où vous vous êtes dit, il faut mettre l'accent que pour être efficace, le chantier doit être réalisé en une seule fois et pas par petits bouts. Donc vous proposez une offre complète et vous vous adressez aussi aux artisans que vous formez.
Oui, le gros objectif, c'est de disposer d'entreprises au niveau local qui sont en capacité de conduire ces travaux. Donc, on a besoin de plusieurs entreprises. Généralement, on est sur 4 ou 5 entreprises pour conduire ces chantiers. Oui. Et donc, il faut les faire travailler ensemble. Donc, on a organisé depuis 2012 des formations sur chantier pour que ces artisans puissent apprendre à rénover globalement la maison de façon complète et performante. On est parti sur ce principe-là.
Et
une fois qu'on a des offres, ça fonctionne dans la mesure où on accompagne également les ménages. Et ça, c'est effectivement aussi un élément important, c'est que les ménages sont sollicités par beaucoup, beaucoup d'offres diverses et variées.
On a du mal à s'y retrouver en plus.
Exactement. Donc, notre approche, c'est de vraiment rendre accessible, de rendre compréhensible par le ménage cette rénovation performante avec l'offre des groupements d'artisans, avec un accompagnement qui est souvent porté par les collectivités locales. Et avec un mécanisme financier, on va chercher en fait les mécanismes financiers existants pour limiter l'apport du ménage. Ce qui fait qu'on a quasiment la moitié de nos rénovations qui se font chez des ménages modestes ou très modestes.
Et donc avec un budget beaucoup moins important, je crois qu'un travail, ça peut vous permettre d'économiser jusqu'à 20% par rapport à un devis classique.
Alors ça c'est sur la partie coût de travaux, donc c'est dans la partie formation en fait. Ouais, quand on pense à formation des artisans, on pense souvent à la technique. Mmh. En fait, la technique, les artisans l'acquièrent très vite. Par contre, on a un enjeu aussi de les faire se coordonner et de les faire travailler sur leurs coûts de travaux. On peut optimiser les coûts sans réduire leur marge. Donc au lieu de passer beaucoup de temps sur un type de travaux, je sais pas, par exemple l'isolation de la façade, on a des techniques pour optimiser ça. Et donc, ça coûte moins cher au ménage, tout en gardant la marge à l'entreprise. C'est ça aussi qu'on traite dans nos formations.
Combien de chantiers réalisés, Vincent Legrand, avec Dorémy, dans quelle région ?
Alors, vous avez cité notre démarrage en 2012. En fait, de 2012 à 2018, on était sur une preuve de concept. Donc, on a testé des choses, principalement dans cette période-là. Mmh. Voilà. Et dans cette période-là, on a suivi de façon extrêmement précise une centaine de rénovations énergétiques performantes. Sur trois ou quatre régions différentes. Donc on est en région centre, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, on se développe également sur d'autres régions aujourd'hui, Nouvelle-Aquitaine, Grand Paris également. Donc tout notre enjeu depuis maintenant un an et demi, c'est de couvrir beaucoup plus la France. Alors on ne sera pas sur 100% de la France à court terme, mais on sera à peu près sur un quart de la France l'année prochaine. On permet à peu près à un quart de la population française d'accéder à ces services de rénovation performante.
Eh bien écoutez, en tout cas, on souhaite que ce soit, pourquoi pas, sur la totalité du territoire, parce que votre solution est vraiment... est très efficace et très ingénieuse. Merci à vous Vincent Legrand, directeur général de Dorémy. Merci à William Aucan, architecte nantais, citoyen membre de la Convention citoyenne. Merci à vous Benoît Paget d'être venu nous parler de Green Big, qui vous repensez la consigne des bouteilles plastiques. On se retrouve demain, c'est la fin de votre émission. Merci à vous Sylvain Lambert, demain on vous attend en studio, ce sera beaucoup, beaucoup plus clair je pense. Merci Fanny, à demain. Demain on va parler Fanny d'un marché qui grandit chaque année, c'est le marché de la glace.
Oh, j'ai hâte.
Oh là là. Ouais, ça tombe bien.
Il y aura des dégustations.
Bah, évidemment.
On va s'organiser.
Et on vous montre que la France bouge même pendant l'été. À demain avec nos invités.
À demain. C'était Elisabeth Assayag sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Au-delà de raconter les infos.